L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
La fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Radio Mandeléo pour vous informer. Voici d'abord les titres de ces radio-journales. Au sommaire, en RDC 64 organisations de la société civile demandent au président Félix Tshisekedi de ne pas promulguer la loi sur les référendums et de convoquer un dialogue national. Dans un mémorandum, elles dénoncent notamment des pratiques de corruption, des trafics d'influence et d'abus de pouvoir dans l'élaboration de ces textes. Pour ces organisations, son rejet contribuera à préserver la paix civile. Également dans cette édition au Sud-Kivu, les jeunes veulent davantage peser sur les décisions qui engagent leur avenir. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, leurs représentants appellent les autorités à les associer aux initiatives de recherche et de la paix. Ils plaident également pour plus d'opportunités d'emploi, de financement et d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Les détails dans cette édition. Et des cas de malformation chez les nouveaux-nés, des pertes de grossesse et des morts fœtales sont rapportés dans certaines zones de santé du Sud-Kivu, touchées par les conflits. À Uvira, des témoignages font état de plusieurs cas, notamment dans la commune de Kalundu. Une gynécologue alerte sur les risques liés aux conditions de guerre et appelle à renforcer la prise en charge des femmes enceintes. Les détails dans cette édition. La technique est assurée par Jean-Claude Ndagui au microphone pour la présentation. Je suis Omer Modekereza. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeléo, celle qui vous informe par un instant. C'est tout pour les titres. Place à présent détaillée. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, 64 organisations de la société civile en RDC appellent le président de la République, Félix Tshisekedi, à rejeter la loi sur le référendum et à convoquer un dialogue national. Elle exprime dans un mémorandum adressé au chef de l'État et dont le contenu a été dévoilé lundi 10 août à Kinshasa. Ce mémorandum fait suite à l'arrêt rendu le 28 juillet par la Cour constitutionnelle qui a déclaré conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC. Ces structures de la société civile dénoncent la corruption, les trafics d'influence, les actes d'abus de pouvoir qui ont influencé les choix des élus nationaux à l'étape de l'élaboration du texte. L'absence d'enquête ou de clarification sur ces soupçons a durablement entaché la crédibilité du travail législatif, ajoute ces structures. Ces organisations soulignent aussi une fragilité juridique, car la décision de la Haute Cour est assortie des réserves d'interprétation sur 13 des 44 articles que compte ce texte soit près d'un tiers. Au vu de tous ces éléments, les signataires de ces mémos estime qu'un refus de promulguer cette loi ne constituerait en rien une faiblesse institutionnelle, mais un acte de haute responsabilité d'État visant à préserver la paix civile. On écoute un extrait de ces mémorandums lu par Jeff Pambi de la coalition PEPIS.
Au regard de la gravité du contexte national, nous demandons solennellement au président de la République de refuser de promulguer cette loi et de mettre définitivement fin au processus engagé. Nous l'appelons à rejeter ce projet au nom de l'intérêt supérieur de la nation congolaise.
Des organisations comme la Lucha et Filimbi sont également signataires de ces mémorandums. Entre-temps, les décideurs doivent investir davantage dans la paix et le capital humain afin de permettre aux jeunes de contribuer pleinement au développement de la province. Ils devraient notamment mettre en place un fonds de garantie destiné aux jeunes et alléger la fiscalité au démarrage des initiatives entrepreneuriales. Message lancé par Eric Baganda, coordonnateur honoraire des jeunes de l'archidiocèse de Bukavu, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée les 12 août de chaque année. À l'en croire, les jeunes du Sud-Kivu font face à plusieurs difficultés, notamment l'insécurité, les déplacements forcés, le chômage, la précarité et les traumatismes liés à la guerre. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, Eric Baganda déplore surtout le manque de financement et un faible accompagnement. Il plaide notamment pour la mise en place d'incubateurs destinés à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs. Celui-ci déplore par ailleurs le manque d'opportunités pouvant permettre aux jeunes d'étudier, de travailler et d'entreprendre dans un contexte où les secteurs privés offrent peu de possibilités d'emploi et que les emplois existants sont de moins en moins sécurisés. Ils plaident ainsi pour leur implication dans les décisions qui concernent leur avenir et pour un meilleur accès aux informations sur les opportunités qui leur sont destinées. Eric Baganda appelle par ailleurs les autorités à créer un environnement favorable à l'épanouissement de la jeunesse et à lui redonner confiance à l'avenir. On l'écoute.
Les mesures qu'on peut prendre, c'est d'abord par exemple créer un fonds de garantie pour la jeunesse, par exemple au niveau provincial, et alléger aussi la fiscalité des démarrages. Les jeunes qui veulent entreprendre, on peut quand même alléger les fiscalités auxquelles ils sont exposés. Il y a aussi, on peut arriver à avoir des incubateurs ou des centres de métiers, parce qu'au niveau de notre province, nous en manquons largement. Et lorsque les jeunes arrivent à produire, ils ont besoin d'avoir des marchés publics réservés aux jeunes ou pour valoriser leur production. Ce que nous pouvons demander aux décideurs, c'est d'investir dans la paix et dans le capital humain. Parce qu'un jeune qui étudie, un jeune qui travaille, un jeune qui entreprend est un être de paix et un être de développement. Et c'est parfois parce qu'on associe des jeunes lorsqu'il y a des troubles, il y a des problèmes. Mais si les jeunes sont bien encadrés, ils peuvent aussi contribuer suffisamment au développement de notre province.
Entre-temps, c'est le Conseil provincial de la jeunesse du Sud qui invite les autorités à faire participer les jeunes dans la prise de décision afin de pouvoir s'exprimer. En marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, son président Pascal Tambouka estime que les jeunes ne doivent pas subir les décisions prises par les autorités sans avoir apporté leur contribution. En cette période, par exemple, le Conseil provincial de la jeunesse du Sud-Kivu demande que les jeunes soient associés aux initiatives en cours visant la recherche de la paix à l'est du pays, car ils font partie des premières victimes de la guerre. Pascal Tambouka demande également aux jeunes du Sud-Kivu de rester vigilants et développer leurs capacités pour contribuer au développement de la province. On l'écoute.
Aux jeunes de ma province, restez résilients, nonobstant les difficultés auxquelles les jeunes font face. J'appelle les autorités à compter sur la jeunesse, la participation dans la prise des décisions. Et comme actuellement, notre pays fait face à de nombreuses tensions et perturbations, pour donner la place aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Les jeunes ne doivent pas être simplement des victimes des conflits, mais doivent plutôt et beaucoup plus être des acteurs et des bâtisseurs de la paix. Pour un éventuel dialogue pour la paix dans notre pays, les jeunes doivent avoir leur place et cela doit être prioritaire.
Cette année, la Journée internationale de la jeunesse est célébrée sous les thèmes « Contextes différents, aspirations communes ». Elle a pour objectif de mettre en lumière les rôles essentiels des jeunes dans la construction d'un avenir durable. Mesdames et messieurs, en cours de diffusion, c'est l'édition du journal sur Radio Maïndeléo, émettant en direct de la ville de Bukavu.
Radio Maïndeléo, la radio de proximité. Plus c'est mieux pour et avec ses auditeurs.
Échangeons des chapitres à présent. Une somme d'argent évaluée à plus de 2 millions de francs congolais et des téléphones contenant de l'argent virtuel estimé à 450 dollars américains emportés. C'est le bilan d'un braquage contre deux shops Airtel Money au marché de Loakabiri au quartier Chirir en commune de Bagira. Les fonds ont été rapportés à 11h30 dans ces centres commerciaux alors que les activités s'est déroulées au rythme des heures de pointe. Selon des témoins, une bande d'hommes armés a pris pour cible le deux shops où ils ont remporté l'argent cash et pris des téléphones des services contenant de l'argent virtuel avant de tirer des balles en l'air visiblement pour s'effrayer passage. Ces bandits armés ont pris les chemins de Bouolo 1 en commune de Kadutu, indique les mêmes sources. Dans la foulée, le bourgmestre de la commune de Bagira, Chaka Mouza, et son adjoint Léon Baaya sont arrivés sur les lieux avec les services de sécurité pour s'enquérir de la situation. L'autorité communale de Bagira annonce l'ouverture d'une enquête en vue d'établir les faits et arrêter les présumés auteurs de ces braquages. D'autres sources évoquent également l'arrestation sur les lieux dont premier suspect. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, des cas de malformation chez les enfants nouveau-nés, des morts fœtales et des avortements serrés actuellement en os dans certaines zones de santé de la province du Sud-Kivu. Des sources médicales ayant alerté Radio Maïndeléo sous couvert d'anonymat renseignent que ces cas concernent principalement les zones où des combats ont été d'une violence intense avec un recours aux bombes et aux drones militaires. N'est-ce pas Myriam Moufano?
Dans la ville d'Ouvira par exemple et ses périphéries, des témoignages concordants parlent de plusieurs femmes dont les grossesses ont été interrompues, des enfants qui naissent avec de malformations et d'autres qui ne semblent pas remplir leurs facultés. En plus de bombardements armés, la situation s'est réaggravée avec des déploiements forcés provoquant aussi l'anxiété et les stress ainsi que les difficultés d'accès aux structures sanitaires en cas de détresse. Pour ce qui est de la ville d'Uvira, le plus grand nombre de cas aurait été enregistré dans la commune de Kalundu. Certaines organisations de la société civile dans d'autres zones évoquent des cas similaires, mais à l'absence des capacités nécessaires pour mener les enquêtes, plusieurs cas restent non documentés. Plusieurs femmes contactées plaident pour leur sécurité pendant cette période, mais aussi l'amélioration de leur accès aux soins maternels dans les zones affectées par les conflits. Écoutons ces témoignages recueillis dans la ville d'Uvira. Cela avait provoqué des incendies. Les femmes enceintes avaient fait des fausses couches, tandis que d'autres avaient donné naissance à des enfants morts-nés. À cette période, il n'y avait pratiquement pas de naissance normale. La situation était vraiment difficile pour les femmes enceintes.
Ils avaient commencé à larguer des bombes au niveau du pont Kasinga. Ces bombardements ont provoqué des graves conséquences chez les femmes enceintes. Des cas d'avortement ont été enregistrés et certaines femmes ont malheureusement donné naissance à des enfants morts-nés. Sans la force, nous n'aurions pas pu nous en sortir.
Pour le docteur Sylvie Mwabali, gynécologue à l'hôpital de Panzi, les périodes de guerre et des conflits armés exposent les femmes enceintes à plusieurs facteurs de risque. Elle parle de l'exposition aux rayonnements ionisants qui peuvent affecter le développement du fœtus et augmenter les risques des retards de croissance, des troubles du développement du cerveau, des malformations et même la perte des grossesses. Docteur Sylvie Mwabali recommande ainsi le dépistage précoce des anomalies fœtales lorsque les moyens médicaux le permettent afin d'assurer un meilleur suivi de la grossesse, d'anticiper les complications et d'orienter les patientes vers des services spécialisés. On l'écoute.
En cas de conflit, la femme n'aura pas le suivi de consultation prénatale qui est recommandé. Il y aura risque d'automédication, donc de prise de médicaments qui ne sont pas recommandés à une certaine période de la grossesse et ça peut créer des malformations. Si dans le milieu dans lequel elle vit, on a utilisé des bombes, on peut se retrouver avec des malformations car il y a certaines bombes qui sont faites à partir des éléments radioactifs et là c'est vraiment un risque pour l'évolution du fœtus.
Il appelle également les autorités à mettre en place un programme spécial en faveur de femmes enceintes et de personnes déplacées vivant dans les zones touchées par les conflits. Docteur Sylvie Mwambali insiste sur la nécessité de renforcer la protection des populations civiles contre les effets des conflits et de contrôler strictement l'utilisation de substances ou équipements potentiels dangereux pour la santé.
Merci à vous, Myriam Moufano. Et plus de 16 580 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 14 ans sont attendus pour être vaccinés contre la rougeole et la rubéole dans la zone des santé des Kalonga en territoire des Kalehi. À ces enfants s'ajoutent plus de 47 900 autres âgés de 0 à 6 mois qui sont attendus pour être vaccinés contre la poliomyélite dans la même zone au sud que vous. Cette précision est du médecin chef des zones de santé des Kalonga, David Moussafiri, lors de la cérémonie de lancement de cette campagne dans cette zone de santé. Il indique que cette campagne de vaccination s'inscrit dans le but de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des enfants âgés de 0 à 14 ans. Le docteur David Moussafiri demande à la communauté des Kalonga de s'approprier cette campagne en faisant vacciner les enfants de cette tranche d'âge. Il demande également aux parents et tuteurs des enfants de se diriger vers les sites de vaccination qui seront indiqués par les relais communautaires. Le médecin, chef des zones de santé de Kalonga, David Moussafiri, en parle.
Tous les enfants de 0 à 14 ans seront vaccinés contre la rougeole, contre la rubéole et la poliomyélite. Cette vaccination va se faire pendant 5 jours. La vaccination va se dérouler dans toute l'étendue de la zone de santé de Kalonga. À toute la communauté, d'amener tous les enfants de 0 à 14 ans au niveau des sites de vaccination pour qu'ils reçoivent le vaccin, pour que tous soient vaccinés. Parce que l'objectif, c'est de vacciner tous les enfants de 0 à 14 ans de la zone de santé de Kalonga. Nous ne voulons pas voir les enfants qui ne se sont pas fait vacciner. Donc les parents sont déjà avertis et nous les sensibilisons à amener les enfants au niveau des sites de vaccination pour recevoir leur vaccination.
C'était là le médecin chef des zones de santé de Kalonga, David Moussafiri, au micro des radios Maïndélo. Et dans le reste de l'actualité, les organisations de la société civile et mouvements citoyens du territoire de Mwenga décrètent une journée sans activité sur l'ensemble du territoire ce jeudi 13 août 2026. L'objectif est d'exiger la reprise des travaux d'entretien des différents points chauds sur la route nationale numéro 2 Bukavu-Mwenga, principalement entre Kalambi et Kitutu, ainsi qu'entre Kitutu et Lugushwa. Allons Kavika pour les détails.
Dans une lettre d'information adressée à l'administrateur du territoire de Mwenga, les forces vives regrettent de voir que ces travaux aient été arrêtés sur base d'une confusion, voire instrumentalisation orchestrée par certains leaders de la zone sur base des intérêts personnels. Le signataire de la correspondance dénonce l'instrumentalisation des hommes armés qui sont arrivés jusqu'à saboter les travaux en tirant des balles réelles sur les engins mobilisés pour la réhabilitation de ces tronçons routiers, pourtant vital pour la communauté. Ainsi, les forces vives du territoire de Mwenga exigent la reprise des travaux sur cet axe, ainsi que l'ouverture d'un couloir sécurisé pour que les ONG et les populations circulent sans entrave dans la zone. On écoute à ce sujet Lungele Itebo Samuel, président de la société civile Forces vives du territoire de Mwenga.
Le bureau de coordination de la société civile Forces vives territoire de Mwenga appelle la population du territoire de Mwenga, surtout la partie sous contrôle du gouvernement central de Kinshasa où nous sommes, a observé une journée morte ce jeudi 13 août 2026 pour demander au gouvernement congolais la reprise immédiate des travaux de réparation des points chauds sur la route nationale numéro 2 et la sécurisation de ces engins de Ngenga à Kitutu et de Kitutu à Lugushwa. Ouvrir une sanction juridique contre les auteurs de ces fusillades à balles réelles de ces engins de travaux le 31 juillet 2026 à Ngenga. Rappel au gouvernement sa promesse d'une route nationale numéro 2 asphaltée de Bukavu, Mwenga, Kindu à Kinshasa. Aucune raison n'est valable pour s'opposer à la décision du gouvernement car elle répond aux aspirations de la population.
Précisons que ces travaux étaient exécutés par la société Kivu Développement avec l'appui de la société Strategos.
Merci à vous Alain Kabik. Et avant la deuxième partie de cette édition du journal, disons que le directeur provincial de la Caisse d'épargne du Congo, Kadeko en sigle, basé dans la ville d'Uvira, est invité à mettre en place des dispositions exceptionnelles afin que les détenteurs de comptes ouverts à partir de la ville de Bukavu puissent y avoir accès au guichet de cette institution, au guichet d'Uvira. Le plaidoyer de Didier Katembera, député provincial élu de la ville de Bukavu, dans une correspondance lui adressée, est consulté par Radio Maingeleo mardi 11 août 2026. Pour lui, les guichets pleinement opérationnels de la Kadeko à Uvira est une opportunité pouvant permettre aux épargnants d'effectuer différentes opérations et principalement l'accès à leurs épargnes dans le souci notamment de mieux préparer l'année scolaire en faveur de leurs enfants. Tenant compte des impératifs sécuritaires et autres garanties, Didier Katembera estime que ces dispositions exceptionnelles devraient être accompagnées de contrôles rigoureux afin que les requérants aient accès à tous les services offerts par cette institution financière. On l'écoute.
C'est en fonction d'une réclamation de la prise en charge des clients Kadeko envers la Kadeko Uvira. Vous êtes sans ignorer qu'après la prise de la ville de Bukavu, toutes les banques étaient fermées et la Kadeko ne pouvait pas échapper à la règle. Voilà que tous les comptes des clients Kadeko ville de Bukavu ont été bloqués. Vous savez, nous sommes au mois d'août et d'ici là, il y aura rentrée scolaire. Beaucoup des clients Kadeko ville de Bukavu ont besoin de voir leurs comptes actifs mais à Uvira. Voilà pourquoi ils ont contacté pour que je hausse les temps, pour que je m'adresse aux autorités compétentes afin que les clients, pour ceux qui les veulent, notamment en majorité, Kadeko ville de Bukavu, soient ramenés à Uvira et que leurs comptes soient actifs, notamment pour qu'ils bénéficient de tous les services bancaires de la Kadeko Uvira. Nous sommes en train de nous battre pour que leurs demandes soient acceptées par les autorités compétentes.
La revue de presse. Radio Maindeleo capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
L'évolution de la maladie à virus Ebola dans certaines provinces de la République démocratique du Congo et l'appel à la vigilance lancé par le maire de la ville d'Uvira à l'approche de la période pluvieuse pour prévenir les inondations font partie des sujets commentés par la presse mardi 11 août 2026. Alain Kabika pour la revue de presse.
Ouvrons cette revue de presse avec le site 7sur7.cd qui annonce que l'épidémie d'Ebola a enregistré un cumul de 4381 cas confirmés, dont 2011 décès dans 5 provinces de la RDC, selon les rapports sur la situation au 9 août publié lundi dernier. Les documents consultés par ces médias fait état de 704 patients en isolement ou hospitalisés contre 869 personnes guéries. Les taux de létalité globale s'établit à 45,9%. 1%, tandis que le taux global de suivi des contacts est de 86,7%. L'épidémie concerne actuellement 53 zones de santé sur les 140 que comptent les 5 provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Haut-Uele et la Tchopo. La transmission reste active en Ituri, au Nord Kivu et au Haut-Uele, l'Ituri demeurant l'épicentre de l'épidémie. En Ituri, ajoute ces médias, le gouvernement signale un renforcement de l'offre de soins avec l'inauguration du centre de traitement d'Ebola à Kasenyi, portant à 840 lits la capacité installée dans cette province. Au point d'entrée et de contrôle, plus de 100 000 voyageurs ont été examinés avec un taux de dépistage de 98%. La riposte repose également sur la mobilisation communautaire. Selon le rapport, l'épidémie touche les 28 zones de santé sur 36 en Ituri, 12 sur les 34 au Nord Kivu, 1 sur les 34 au Sud Kivu, 6 sur 13 au Haut-Uele et 6 sur les 23 dans la Tchopo. Au Sud Kivu, Mitimouré, sa seule zone de santé affectée, totalise 74 jours sans nouveau cas confirmé. Bouclons cette revue de presse avec le site Jambo RDC qui annonce qu'à l'approche de la saison des pluies, les autorités de la ville d'Uvira appellent à renforcer les mesures de prévention contre les inondations, un risque qui demeure permanent dans plusieurs quartiers de la ville. Le maire Kiza Muhato a lancé cet appel lors de l'ouverture d'un atelier d'information et de sensibilisation sur l'utilisation des matériels et outils adaptés à la réduction des risques et des catastrophes liées aux inondations, organisé par la protection civile en collaboration avec l'organisation Appui au développement de l'enfant en détresse. Avec l'approche des pluies, l'autorité urbaine insiste particulièrement sur la nécessité d'anticiper des éventuelles conséquences dans les zones les plus exposées. 10 quartiers de la ville ont ainsi été ciblés comme particulièrement vulnérables aux inondations. Le maire estime que l'installation des panneaux de sensibilisation et d'autres outils d'alerte ne doit pas se faire au hasard. Elle doit tenir compte des zones régulièrement touchées, des points de débordement des cours d'eau, des axes de ruissellement, ainsi que des secteurs à forte concentration des populations. Pour Kiza Muhato, la prévention des catastrophes exige enfin une implication collective. Les autorités, le services techniques, les organisations humanitaires et les communautés doivent conjuguer leurs efforts pour mieux anticiper le risque et réduire les pertes humaines et matérielles à l'approche des prochaines pluies, conclut Jambo RDC.
C'est par cette note, mesdames, messieurs, que nous mettons fin à cette édition du journal sur Radio Maïndéléo. Sa mise en onde était celle de Jean-Claude Ndagué. Au microphone pour la présentation, c'était bien moi, Omer Moudekereza. Au revoir.